Bonjour tout le monde, c'est Radio WN. Derrière le microphone, c'est Anna et
Elena.
Et on vous dit bonjour de la manifestation qui n'est pas vraiment encore commencée. Ce sera la manifestation dédiée au jour des droits de femmes. Ce qui est un peu intéressant pour nous comme des Slaves, parce que dans notre pays, ce n'est pas vraiment la journée des droits de femmes, mais c'est plutôt journée des femmes. Alors Elena, dis-nous, à quoi ressemble la journée des femmes dans la Russie?
Donc en Russie, c'est vraiment la journée des femmes, ça veut dire qu'il n'y a pas de droits, même comme il n'y a pas de droits. Personne n'a de droits en Russie, ça veut dire que cette journée, vos pères, vos frères, vos collègues devraient vous offrir des bouquets de fleurs, que minimum en fleurs, c'est nécessaire, c'est obligatoire pour cette journée.
En Tchéquie, c'est un peu comme ça. Je pense que pas beaucoup de gens le fêtent en Tchéquie, mais par exemple moi maintenant, je suis très curieuse. Si en France, vous pouvez obtenir des fleurs gratuites dans un supermarché, parce que c'est comme la journée des femmes à l'heure en Tchéquie. C'est basiquement pour moi, c'est une seule, parce que j'ai jamais obtenu des fleurs de mon père ou de quelqu'un comme ça. Mais j'ai vu que dans le supermarché tchèque, ils toujours donnent des fleurs à tous les femmes qui viennent. Mais moi, j'ai jamais reçu de fleurs parce que j'ai l'air comme l'enfant. Alors, mais j'ai vu qu'il y a maintenant, je pense, 20 mètres de nous, il y a maintenant deux femmes qui ont des fleurs.
Ces chasses de fleurs. Et chers auditeurs, chères auditrices, rassurez, s'il vous plaît, Anna, est-ce qu'il est possible d'obtenir les fleurs gratuitement à 8 mars en France ou pas? Et en plus, j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui en Russie, c'est le jour férié, ça veut dire que personne ne travaille et c'est très bien. C'est le seul avantage de ce jour chez nous.
Oui, en Tchéquie, malheureusement, nous travaillons, ça me semble, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas. Alors oui, c'est bon d'avoir la férié grâce au jour de la femme, ça me plaît.
Moi, je vous posais une petite question. Où vous avez pris cette fleur?
Ah, la fleur a été achetée dans un magasin, mais je ne vais pas nommer lequel, par ma collègue qui avait une petite attention pour toutes les femmes que nous avons à Adoma. Elle s'appelle Madame Sandra, afin d'honorer les femmes du centre d'accueil d'hébergement pour les demandeurs d'asile.
Ok, voilà. Merci. Bonjour Madame, est-ce que je peux vous poser une question? Vous avez deux fleurs et vous avez acheté cette fleur pour vous-même ou...
Moi-même.
C'est comme le symbole du jour international des droits de femmes ou par hasard?
Oui, c'est pour ça en fait.
Et vous venez de quel pays?
Afrique du Sud.
Et chez vous, c'est quelle fête de cette... Il y a en fait la fête des droits, la fête internationale des droits de femmes ou pas?
Oui, il y a ça aussi.
Mais c'est plutôt la journée des femmes ou la journée des droits des femmes?
La journée des femmes.
Alors moi je suis Émilie et je suis bénévole à l'association Quack etc, membre du conseil d'administration et je fais partie de l'équipe organisatrice, on est 6 à avoir organisé cet événement en 2 mois, donc on est assez fiers.
Est-ce que vous pouvez dire quel événement aura lieu dans cette journée internationale des droits des femmes ici, oui, aujourd'hui?
Alors il y a plusieurs activités différentes. Donc là, sur le square de la Bourse, il y a des associations qui parlent de leurs actions, comme CIDFF qui défend le droit des femmes, Solidarité Femmes qui accompagne les femmes victimes de violences, tout type de violences, par exemple conjugales. Et puis il y a tout un pôle artistique où toute personne peut s'exprimer. Donc il y a un poème, il y a... expression par l'art ou par les mots. Et puis il y a la buvette, notre petit café qu'on a aménagé. Et donc là, il y a des crêpes et il y a des boissons. Donc ça, c'est l'extérieur. Et ce soir, il y aura une scène ouverte et deux concerts. Ça finit à 23h. Et puis il y a un deuxième pôle qui est au restaurant Saint-Clair, qui est juste là. À partir de 16h, il y aura des artisanes qui viendront exposer leur art et des artistes. Et il y a également deux autres pôles où il y a à 15h, donc là, donc toujours au Saint-Clair, une confidence gesticulée qui va être performée par Charlotte Darteil. Et à 20h, il y aura une table ronde sur l'évolution du droit et son application.
Super. Et pour vous, exactement, être une femme, ça veut dire quoi ?
Oula, c'est une vaste, vaste question. J'ai l'impression que c'est être en perpétuelle lutte pour dire qu'on existe, que j'existe en tant qu'être humain et qu'il n'y a pas de différence à faire en fonction du genre, en fonction de sa sexualité, en fonction de peu importe son physique. Et donc être une femme, ouais, c'est être humaine en fait avant tout et le revendiquer.
Est-ce qu'il y a l'exemple d'un bon vie quotidien où vous êtes confronté avec inégalité entre hommes et femmes? S'il y a quelque chose de spécifique qui vous vraiment énerve beaucoup?
Tout m'énerve, donc c'est difficile de choisir parce qu'en fait c'est constant. Entre les hommes qui veulent m'expliquer des choses que je sais déjà et qui persistent à le faire, entre mon salaire qui n'est pas équivalent à un homme alors qu'on a exactement les mêmes missions, mais il y a toujours une excuse qui montre que voilà, il est mieux payé, les personnes qui vont m'agresser dans la rue, qui parce que je suis une femme vont venir oser me parler, et puis si je veux pas leur parler, venir m'insulter du coup, ou des choses comme ça. Et à l'intérieur des couples aussi, quoi, de se dire bah, parce qu'on est une femme, il faut satisfaire les besoins des hommes. Enfin, j'ai été confrontée à ça. C'est voilà. Enfin, c'est un des petits exemples parmi plein d'autres qui ne devraient jamais exister.
Merci beaucoup.
Eh bien, moi, je suis venue en tant que bénévole, du coup, pour faire vivre cette journée pour les femmes, pour qu'on puisse être entendues et vues et se reconnaître entre nous, pour voir à quel point, en fait, on est trop fortes et on fait des choses trop cool. Donc voilà. Et on va aussi chanter avec notre chorale féministe ce soir sur la scène ouverte. Donc voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre dans cette chorale, ça s'appelle Coven Cantores. Je suis en grève du coup, normalement je suis censée travailler, mais je me suis déclarée en grève pour pouvoir soutenir ce mouvement, pour soutenir les femmes, soutenir la cause et défendre nos droits. Donc oui, c'est important parce qu'il y a encore du chemin à faire et que c'est super d'avoir des événements comme ça justement pour avancer encore plus.
Et peut-être selon vous, l'inégalité entre des femmes et des hommes, ça existe encore exactement en France et...
L'inégalité ?
L'inégalité,
oui. Ah oui, ça existe encore, oui. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques questions, par exemple, de inégalité quotidienne, selon vous, si ça existe ?
Ça existe dans plein de sphères, la sphère professionnelle, où il y a encore des inégalités salariales, où il y a encore plein de métiers qui sont occupés que par des femmes, et c'est souvent les métiers qui ne sont pas les mieux payés, hein, pour ainsi dire. Les femmes ont quand même du mal à accéder à des postes à responsabilité. Des inégalités aussi dans le domaine privé à la maison. Il y a encore quand même beaucoup de sujets sur la charge mentale, que ce sont les femmes qui portent un peu toutes les tâches domestiques de la maison. Alors évidemment, c'est une généralité, il y a des exceptions, il y a des hommes qui s'investissent, mais au global, quand on prend des statistiques, c'est quand même la femme qui porte la charge mentale dans le foyer. Que ce soit pour faire les tâches ménagères ou la cuisine ou simplement en fait penser à des choses, penser à faire des courses, penser à avoir l'agenda en tête, ce genre de choses. On le dit par exemple pour aussi tout ce qui est s'occuper des enfants. Quand le papa emmène les enfants chez le médecin, il sait pas répondre aux questions parce que il est au courant de rien et que c'est la maman qui gère le carnet de santé et les vaccins, etc. Quand une maîtresse a besoin d'ailleurs d'appeler un parent pour venir chercher l'enfant à l'école, c'est la maman qu'elle appelle en premier. Et autant la mère va facilement répondre « bah oui, j'arrête mon travail et je viens te chercher », autant le père va répondre « ah bah non, je peux pas appeler la mère ». Donc c'est ce qu'on nous apprend et il y a des choses à faire changer, à faire bouger pour que ce soit plus égalitaire et que cette charge-là soit mieux répartie. Et puis je dirais qu'il y a aussi une inégalité dans la sexualité. On n'apprend pas aux femmes à exprimer leurs souhaits et leurs plaisirs. On leur apprend à être un peu des objets du désir de l'autre et pas à exprimer leur propre désir à elles. Et donc ça, c'est en train de bouger comme tout le reste. Et il faut que ça bouge encore plus et qu'on prenne conscience qu'on a une vraie place, qu'on a une vraie valeur et qu'on est quand même la moitié de l'humanité et donc qu'on a le droit à la même place que les autres. Voilà.
Merci beaucoup. Master roses that you
lay. No remorse. Je m'appelle Rémi, j'ai 28 ans et ce que je fais ici, je suis venu filer un coup de main pour installer des choses.
Et pourquoi c'est important pour vous le jour international des droits des femmes ou pas? Si oui, pourquoi?
Je sais pas si la journée en elle-même est plus importante que le reste. Parce que tu vois, je me dis en action, il y en a une qui marque plus souvent dans l'année, c'est pas forcément le 8 mars, c'est celle qui arrive souvent en novembre, qui est la manif Nous Toutes, qui est une grosse marche qui a partout. Je l'ai fait quelques fois à Paris, je l'ai fait une fois ici à Mulhouse. Pour moi, c'est un événement qui est plus marquant. Le 8 mars, c'est plus difficile, je trouve, à appréhender parce que c'est vachement récupéré par les marques et les institutions. Et donc, c'est bien qu'il y ait cet événement par l'asso aujourd'hui et que ça m'emmène à faire autre chose. C'est bien que j'ai Aude qui est avec moi et qui fait la grève, parce que du coup, ça fait que ça me marque plus.
Est-ce que vous avez offert une fleur dans 8 mars à quelqu'un, je ne sais pas, à votre mère, à votre soeur, à votre copine?
Pas du tout, parce que je ne vois pas du tout le rapport entre offrir des fleurs et la journée du 8 mars, on se bat pour des droits, donc pas de fleurs pour le 8 mars.
Alors c'est contradiction des fleurs et des droits.
Ah, il faut que j'essaie d'expliquer pourquoi pour moi ça va pas ensemble. C'est parce que en gros, déjà je trouve qu'il y a, d'un point de vue du symbole, ça fait un peu ramener les femmes aux fleurs qui sont un truc dans un cliché qu'on essaie un peu de déconstruire. Que je vois pas pourquoi les fleurs seraient pour les femmes. Enfin, ça refait cette association là, tu vois. C'est comme si on disait je leur offre un t-shirt rose, quoi. Et après, je crois pas que ce soit une journée pour faire un cadeau aux femmes. On est là à la limite. Pour faire des événements, pour se battre pour des trucs, pour rappeler pourquoi on veut que ça change et content de faire plus d'égalité, mais le double côté, le côté cadeau et le côté fleur, ça me va pas.
Okay. Et selon vous, l'inégalité entre les hommes, des hommes et des femmes, ça existe encore ou pas?
Absolument, ça ne fait que exister. Je ne sais pas si on arrivera au bout un jour, malheureusement.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ça?
Quelques exemples, le plus... Enfin, je suppose que c'est le... Ah, tu veux que je coupe le vent?
Oui, super, merci.
Je dirais au quotidien, un truc flagrant, c'est l'inégalité salariale. Le fait qu'elles sont payées moins, d'une part à... Parce qu'il y a un peu deux chiffres. Il y a d'une part à poste égal et d'autre part dans l'absolu, parce qu'elles ont en général des temps partiels, elles ont des postes moins payés, moins qualifiés. Ça, c'est un premier truc. Et après, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Parce que je ne vais pas tout réciter. Il y a au quotidien le côté liberté, prise de parole, prise en compte de l'écoute, quels que soient les cercles, quoi, que ce soit au boulot, au quotidien ou à la maison, t'as ce truc où la parole et la place des hommes est toujours prépondérante et vont toujours plus facilement couper la parole aux femmes ou prendre les décisions à leur place. Et donc pour moi, ça c'est deux trucs flagrants, que ce soit salarial ou ce truc de la parole au quotidien, qui font que c'est pas du tout... On n'en est pas encore là.
Qu'est-ce que peuvent des garçons ou des hommes faire dans la vie quotidienne pour minimaliser l'inégalité? Est-ce qu'il y a des petites actions? Qu'est-ce que vous pensez?
Pour ceux qui ont les moyens dans leur habitation, s'ils vivent avec des femmes, essayer de faire qu'elles aient une pièce qui leur appartient, ou que chacun puisse avoir une pièce de son côté et qu'il n'y ait pas que des espaces communs. Ça laisse un côté liberté, intimité et pouvoir se décharger mentalement. Laissez que ce soit vos amis, vos sœurs ou vos copines ou machin, leur laisser des temps aussi de non-mixité, toutes seules entre elles. Ça ne veut pas dire que même si vous êtes quelqu'un de bienveillant, en fait, c'est important de ne pas être là des fois et de leur foutre la paix. Et après, au quotidien, et ben, se calmer sur les blagues sexistes, les gars. Se dire que je vois où est l'humour, mais que se forcer à en faire moins, ça peut faire qu'on trouve ça moins drôle.
J'espère que nous avons bien entendu dire qu'il y a une association qui est l'objectif de laquelle est de se combattre contre la violence faite aux femmes et aider aux femmes qui sont la victime de harcèlement domestical. Et je réfléchis à quelle est la situation en Russie concernant la violence domestique. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des lois qui protègent des femmes ou est-ce que c'est chiant?
C'est chiant exactement parce qu'il y avait grand débat sur la loi qui protège des femmes de harcèlement conjugal. Mais en fait, le gouvernement a refusé d'accepter cette loi. Ça veut dire qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas que le protège officiel des femmes qui souffrent de ça.
Par exemple, concernant la viol, c'est comment?
Heureusement, je ne sais pas comment. Mais en tant que je sache, c'est très difficile de prouver que tu as cette situation, que tu as été harcelé et tu avais des sexes sans ton autorisation, quelque chose comme ça. C'est très difficile en fait pour prouver que tu es victime de ça.
C'est pareil en Tchéquie. Maintenant, il y avait le cas qui a vraiment énervé l'entière République tchèque parce qu'il y avait le cas quand des pères de la fille qui avait 16 ans, si je ne me trompe pas, elle a violé cette fille pendant des années. Et maintenant, la fille allait à la police à la fin. Et il y avait le processus avec cette père et il n'est pas quand même fini dans la prison. Ils ont juste cette, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc, quand tu ne vas pas à prison, mais il dit que si tu vas violer la loi d'autres fois, tu vas aller en prison la prochaine fois, mais maintenant, non, je ne sais pas. Tu sais comment ça s'appelle, le truc comme ça? Mon nom, j'espère que vous pouvez imaginer ce que je veux dire. Voilà, il y a toujours la barrière de langue chez moi, mais c'est ça, il y avait, c'était le grand problème. Que la violence est si pas tolérée, mais un peu supportée par ça, parce que c'est incroyable pour moi d'imaginer la fille essayer de faire de se tuer après cet verdict. C'était très triste, ce cas. Alors, même en Tchéquie, la situation est très triste. Alors, on va aller voir. Si la situation est un peu meilleure ici en France.
Fixes up the gables, emotional torture from the hurting high table. Who fetches the water from the rocky mountain spring and walk back down again to feel your words and your sharp sting? And I'm getting fucking tired. The capillaries in my eyes are bursting. If our love died, would that be the worst? Somebody I thought was my savior. Sure, maybe do a whole lot of labor. The callous skin on my hands is cracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence haunts our bedchamber. You made me do too much labor. Stabbing with your fork. I know you're a smart man. I know you're a smart man. And weaponized the false incompetence. It's dominance under a guy. If we had a daughter, I'd watch.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et aussi présenter votre association et quel est l'objectif de votre association ?
C'est une association qui, donc c'est Solidarité Femmes 68. On est une association départementale, donc on est sur tout le Haut-Rhin. Notre siège est à Mulhouse. On a une antenne à Saint-Louis, une antenne à Colmar. Et on reçoit les femmes victimes de violences conjugales et les enfants, donc pour un accompagnement, un hébergement, une mise à l'abri. Voilà. On fait de l'accompagnement, on propose après d'aller vers le logement autonome, une fois qu'elles sont passées par chez nous. Et en attendant, bah, on travaille tout ce qui est insertion, mais aussi tout ce qui est violence. Donc il y a du soutien à la parentalité dans le cadre des violences, il y a un travail sur le mécanisme des violences, il y a un soutien psychologique. On est une association où il y a 20 salariés, et donc c'est essentiellement des travailleurs sociaux qui reçoivent les femmes victimes, donc on a des permanences d'écoute, et ensuite elles peuvent être suivies par des psychologues si elles le souhaitent. Donc on a 4 psychologues à l'association.
Voilà. Et combien de cas à peu près, ou si ce n'est pas secrète information, il y a en France? Est-ce que c'est le très grave problème ici, ou c'est concernant des nombres, c'est comment?
Alors si, c'est un grave problème. Bon, pas qu'en France, je pense, mais effectivement, il y a beaucoup de femmes victimes de violences. Essentiellement, on dit que parmi toutes les victimes de violences, il y a 87% de femmes. En France, il y en a 244 000 qui sont déclarées, en tout cas. Hein. Les autres n'ont peut-être pas déposé plainte, mais déclarées, il y en a 244 000. Et oui, une grande partie, effectivement, ne dénoncera jamais les violences. Nous, au niveau local, on en reçoit tous les ans environ... En 2023, on en a reçu 562 des nouvelles situations.
Et par rapport à la loi, il existe la loi qui protège des femmes de la violence et de violence conjugale exactement?
Alors il y a des lois, il y a des dispositifs qui existent, mais c'est vrai que toutes les lois ne sont pas encore vraiment appliquées sur le terrain. Concrètement, au quotidien, c'est pas toujours le cas. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de dispositifs. Il y a l'ordonnance de protection, bon, qui est là depuis 2010, hein, qui protège les femmes, qui donne interdiction à l'auteur de s'approcher d'elles, qui les autorise à tenir leur adresse secrète. Il y a plein de choses comme ça. C'est de plus en plus prononcé par les juges, mais après, ça, c'est lent. C'est très lent en France, hein, jusqu'à ce que tout ce qui est juridique se mette vraiment en place et les lois soient appliquées, quoi. Donc,
Pourquoi c'est trop difficile pour des femmes de... Vous avez mentionné qu'il y a des psychologues qui travaillent avec eux. Beaucoup de femmes, ils ne disent pas qu'ils souffrent de violence à la maison. Pourquoi vous pensez que ça se passe?
Ben déjà, il y a la question de la honte. Souvent, elles ont honte d'être dans cette situation-là. Mais après, il y a tout le mécanisme des violences qui fait qu'elles n'arrivent plus à partir parce que ça crée une emprise. Elles sont dans un cycle hein, où il y a quatre stades dans le cycle, c'est-à-dire que vous avez les tensions, la crise, le transfert de responsabilité, où l'auteur il va à chaque fois transférer la responsabilité sur la victime en disant que s'il est violent, c'est parce qu'elle l'oblige à l'être. Et en fait, ça fait que les femmes, elles perdent confiance en elles, elles perdent l'estime de soi, et elles pensent vraiment être responsables de cette violence. Et du coup, elles ont du mal à sortir de là parce que c'est suivi après d'une phase que nous, on appelle lune de miel. Bon, vous pouvez trouver tout ça sur Internet aussi, hein, c'est expliqué, qui fait qu'il va s'excuser, l'auteur, à chaque fois, et à chaque fois, elle reprend espoir. Et elle va laisser une nouvelle chance à son compagnon jusqu'à la prochaine phase de tension, de crise, et ça tourne comme ça. Et souvent, quand elles ne sont pas aidées, elles n'y arrivent pas toutes seules. Enfin, elles ont un petit peu de mal à sortir de tout ça parce qu'elles pensent vraiment être incapables de se débrouiller seules à force qu'on leur répète « tu n'y arriveras pas toute seule, tu es bête, tu sais pas éduquer les enfants ». Enfin voilà, donc c'est ce qui fait qu'elles restent, quoi.
Moi, j'ai une question. Peut-être l'information plus technique. Si quelqu'un harcelait, qu'est-ce qu'il faut faire? Et par exemple, et la deuxième question, je sais que moi, mon ami, par exemple, a été harcelé par, je sais pas, son mari ou quelque chose comme ça. Comment je peux l'aider?
Ah ben, pour l'aider, oui, c'est compliqué. C'est elle qui doit faire la démarche. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle dépose plainte pour harcèlement. Hein. Donc, il faut, bon, faut apporter des preuves, hein, évidemment. Mais souvent, si c'est par message, SMS, voilà, ça, on peut aller déposer plainte. Et normalement, l'auteur est quand même convoqué. Il doit s'expliquer sur ce harcèlement. Et si c'est grave, ben, normalement, il devrait être placé en garde à vue. Après, ce n'est pas toujours le cas. Et éventuellement être poursuivi. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à aller déposer plainte plusieurs fois. Parce que quand on est venu plusieurs fois à la police, au bout d'un moment, il y a peut-être quand même quelque chose qui peut se déclencher, quoi. Et là, c'est là qu'on peut demander une ordonnance de protection parce qu'on a été harcelé. Et après, normalement, il y a interdiction de s'approcher. Et si l'agresseur le fait quand même, il y a une sanction. Il y a 2 ans de prison et 15 000 euros d'amende. Donc des fois, ça les retient. Pas tous, hein. Certains sont au-dessus des lois et l'honneur est trop important. Et ça, même s'il y a une amende ou une peine de prison, ils vont peut-être quand même, ils vont peut-être pas respecter l'éloignement. Mais bon, dans la plupart des cas, ça apaise les choses quand même. Et puis ensuite, les femmes, elles peuvent avoir des téléphones grave danger. C'est un téléphone qui est remis par le procureur de la République. Et là, bah, si elles sont approchées par l'agresseur, elles peuvent l'actionner, elles appuient sur une touche et ça déclenche l'arrivée d'une patrouille de police. Donc ça existe aussi, quoi. Donc il y a des moyens, quand même, heureusement.
Il faut juste persuader des femmes. Alors si elles viennent dans votre centre, vous pouvez leur quand même aider avec faire la plainte peut-être, ou c'est elles-mêmes qui font ça?
On peut accompagner au dépôt de plainte, on peut aussi accompagner à la préparation du dépôt de plainte, parce que les femmes victimes de violences, souvent, tout est un peu confus, et elles racontent un peu les événements dans le désordre, elles ne savent pas par où commencer, elles partent dans tous les sens, et souvent devant les policiers, c'est pas bien vu, hein, ils n'aiment pas trop ça, hein, donc on les aide à préparer la plainte. Donc parfois, elles viennent même avec un carnet où elles ont écrit les événements dans le bon ordre. Et voilà. Ça, on le fait aussi. Et puis, on accompagne physiquement au commissariat et à la gendarmerie.
Nous sommes remarqués que vous avez des... Je ne sais pas comment le décrire avec mon français, mais ce sont des petites couvertures pour des verres. À quoi ça servit
En fait, on distribue ça essentiellement aux jeunes hein, qui sortent en soirée. C'est des caches vertes. Je ne sais pas comment, effectivement, il n'y a pas de nom vraiment spécifique. Et ça évite qu'on puisse mettre de la drogue dans le verre pour que quelqu'un puisse profiter d'une personne en boîte de nuit ou l'agresser, notamment sexuellement après. Donc ça protège et il y a juste un emplacement pour mettre une paille et ça évite qu'il y ait accès au verre, en fait. Voilà.
C'est un très grand problème, la dead rock du viol ici en France, ça augmente parce que j'ai entendu qu'aux États-Unis c'est un très grand phénomène. Je viens de Tchéquie, alors là-bas c'est passé quelques fois, mais je pense que ça c'est pas encore vraiment arrivé chez nous, alors en France c'est un problème.
Oui, si, c'est quand même un problème. Moi, j'ai des personnes dans mon entourage à qui c'est arrivé, que ça soit aux filles ou aux garçons. Parce que souvent, quand c'est un groupe, ils droguent aussi les garçons pour éviter que les garçons défendent les filles qui soient incapables de bouger. Donc, c'est vraiment, ça arrive et c'est un problème quand même. Ça arrive de temps en temps. Ouais. Et bon, c'est pour ça, nous, on en a commandé. On s'est dit que c'était une bonne idée de distribuer ça aux jeunes et pour éviter les problèmes, parce que les agressions sexuelles, c'est quand même très fréquent. Hein. Alors, en France, oui, peut-être certainement ailleurs, partout dans le monde aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles et d'agressions dans la rue, mais pas seulement. Hein, et puis aussi, dans les familles, c'est quelque chose de très répandu. On n'en parle pas encore beaucoup, ça commence à venir, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'abus sexuels en tout cas.
Alors merci beaucoup pour cette initiative. C'est la première fois quand je l'ai vu quelque part. Avant, je l'ai vu seulement sur Internet. C'est un très grand problème et il faut, vous nous écoutez, je pense qu'il y a plein de jeunes qui nous écoutent. Si vous sortez, il faut faire attention à ça. Il faut toujours garder votre boisson, spécialement en tant que fille, mais évidemment en tant que garçon aussi. Et ne jamais laisser votre verre quelque part que vous ne le voyez pas. C'est la règle plus importante. Alors, est-ce que vous pouvez répéter le nom de votre centre et aussi peut-être le contact s'il y a maintenant quelqu'un qui nous écoute et qui est la victime de violence, si vous pouvez leur donner l'adresse ou le téléphone, le mail.
Donc Solidarité Femmes 68, donc le siège il est à Mulhouse, au 83 rue Quechelin. Et le numéro c'est 03 89 70 02 21. Et donc on peut nous contacter par ce biais-là. Après on peut donner tous les renseignements au téléphone sur les permanences d'écoute, sur l'accompagnement. Et sinon, il y a aussi, on peut faire le 3919 si vraiment on trouve pas l'association parce que le 3919 est relié aussi à notre association puisqu'on fait partie du réseau Solidarité Femmes qui est porteur du numéro national 3919.
Voilà. Merci beaucoup. Qui êtes-vous et quelle est votre association et l'objectif de votre association?
Alors nous sommes le CIDFF du Haut-Rhin, c'est le centre d'information sur les droits des femmes et des familles. On est 98 CIDF en France et notre première mission c'est l'information des familles sur leurs droits, leurs devoirs, la lutte contre les violences sexistes et faites aux femmes notamment, et puis l'éducation à l'égalité, donc l'égalité entre les filles et les garçons. On a une équipe de 27 professionnels et au sein desquels on a également 4 juristes, 3 psychologues et 3 intervenants sociaux qui reçoivent à notre siège, donc à côté de la place Franklin à Mulhouse, toutes femmes victimes de violences, donc souvent des violences au sein du couple ou de la famille, parfois des violences au travail, un peu plus rarement des violences dans la rue. Et on va pouvoir les informer sur leurs droits, sur ce qu'elles peuvent faire. Et on peut aussi faire de l'accompagnement psychologique pour les violences au sein du couple, pour comprendre un petit peu ce qu'on a vécu, comment on peut en sortir et comment on peut s'en remettre par la suite.
Si vous parlez en sein du couple, ça veut dire que vous aussi travaillez avec l'agresseur, c'est ça?
Alors, on ne travaille jamais avec les deux ensemble, tout simplement parce que les deux ensemble, en fait, on va reproduire de la violence. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, voire à rien du tout. Donc on va recevoir les victimes pour pouvoir leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne les violences et comment elles peuvent s'en sortir. Et puis à côté, on fait également des stages de responsabilisation pour les auteurs. Donc là, on les rassemble entre eux et ils travaillent entre eux pour leur faire prendre conscience des violences, des formes qu'elles prennent et de ce qu'ils peuvent faire pour ne plus reproduire de violences. C'est un très grand programme, on en est bien conscient, mais en tout cas, sur des violences, il ne faut jamais travailler ensemble, il ne faut jamais essayer de réunifier les personnes parce qu'on va reproduire de la violence. Donc on va plutôt faire travailler séparément les victimes et les auteurs. Et une fois que chacun a travaillé séparément, ben on regarde ce qui reste et ce qu'on peut construire, notamment pour la parentalité quand il y a des enfants entre eux, voir comment ils peuvent réussir à faire fonctionner cette parentalité, chacun de son côté, mais plus en rejoignant de la violence.
Est-ce que vous travaillez avec des auteurs de violence aussi? Est-ce que vous voyez là, certains modèles, pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est vraiment, ils aiment faire la violence à d'autres personnes ou c'est pas vraiment toujours intentionnel? C'est quelque chose qu'ils ont appris par exemple dans leur famille et ils ne savent pas qu'ils sont violents. Quelle est la plus souvent raison de violence?
Alors quand on les interroge, eux, ils nous disent « j'ai pété les plombs, j'en avais marre, j'en pouvais plus, etc. » Nous, on considère que la violence, c'est un problème de contrôle. En fait, ils ont le besoin d'avoir le contrôle sur l'autre tout le temps. De décider « est-ce que tu as le droit de sortir ? Est-ce que tu as le droit de faire ça ? Tu as le droit de travailler ? Ou je veux qu'on mange à telle heure ? Ou je veux que les enfants ils soient en pyjama à telle heure, etc. » Et en fait, quand il y a quelque chose qui vient se mettre en travers de ce contrôle, parce qu'en face, la victime, elle dit « bah là, je peux pas » ou « là, je ne veux pas », elle a le droit. Eh bien, tout simplement, ça va les rendre complètement foudrage. Ils ne supportent pas cette frustration-là. Et là, effectivement, ils vont passer à des actes violents. Donc, ils vont crier, insulter, donner des coups, peut-être commettre des violences sexuelles, priver de papier, d'argent ou de choses comme ça. Mais en fait, le problème de départ, c'était le contrôle sur la victime. Donc, sur le coup, ils nous disent « j'ai pas fait exprès et j'ai pété les plombs ». Mais en fait, il y avait un problème au départ de contrôler l'autre. Ils veulent contrôler l'autre tout le temps. Et ça ne marche pas. Il y a toujours un moment où ça ne marche pas. Et donc, à ce moment-là, ils vont commettre des actes violents pour reprendre le contrôle. La violence, on la fait toujours volontairement. Sinon, c'est de la maladresse. Si je bouscule un petit peu l'autre sans le voir, c'était de la maladresse. Si je pousse l'autre, j'ai bien décidé de le pousser. Je n'ai peut-être pas décidé qu'il allait se blesser, mais j'ai décidé de le pousser. Donc, c'est toujours volontaire. Par contre, effectivement, parfois, c'est le fruit d'un long processus où on a voulu surtout contrôler l'autre.
La petite question peut être très personnelle, mais pourquoi vous avez décidé de faire partie de cette association? Peut-être, est-ce que vous avez des expériences personnelles de violence ou pas?
Alors, je pense qu'on a tous des expériences de violence. On en a tous côtoyé, on en a tous vu. Et en fait, au départ, ça n'a pas tout à fait été un choix. Parce que c'est par un réseau d'amis où moi, je cherchais un travail qui avait du sens. Donc, je suis juriste, mais je ne voulais surtout pas travailler dans une banque ou dans des assurances ou autre. Je voulais vraiment quelque chose qui ait du sens et qui soit utile aux personnes. Donc, j'avais déjà un petit peu travaillé dans une association de consommateurs. J'avais aussi aidé des personnes. Et puis, on m'a parlé du CIDF. Et je me suis retrouvée dans l'émission en disant « Ah oui, tiens, lutter contre les violences, pour l'égalité, ça me paraissait important ». Et donc, j'ai commencé comme juriste, j'ai informé les personnes, je me suis spécialisée sur les violences. J'ai trouvé ça passionnant. Plus j'en apprenais, plus j'en voyais autour de moi. Plus je me rendais compte du travail colossal qu'il y a à faire dans toute notre société pour l'égalité et pour la lutte contre les violences. Et puis, bien petit à petit, je suis devenue coordinatrice, l'équipe a grossi et aujourd'hui, je suis directrice de l'association. Et je l'aime de tout mon cœur et je ne la quitterai pas pour rien au monde.
Pour un peu faire le retour chez la violence au sein du couple, comment on peut convaincre des auteurs de violence de venir chez vous? Parce que j'imagine que des gens qui viennent, ils ont déjà réfléchi que ce n'est pas bon ce qu'ils font, mais s'il y a maintenant quelqu'un qui nous écoute et qui est la victime de violence, comment elle voit que, par exemple, son ami, il y a quelqu'un qui fait la violence à quelqu'un, comment convaincre l'auteur de violence de venir chez vous? Est-ce qu'il y a une stratégie qu'on peut utiliser?
Alors c'est très très compliqué, je ne vais pas vous le cacher, il y a beaucoup d'auteurs qu'on reçoit, c'est sur orientation de la justice, c'est quand ils ont déjà commis des violences et qui se sont fait prendre par la justice. Maintenant, sur des personnes volontaires, eh bien, je dirais que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, parce qu'on le sent, parce qu'on le sait, on sent qu'on n'est pas bien avec l'autre, on sent peut-être qu'on perd du contrôle, que ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On a un groupe de parole qui est totalement anonyme, où on va pouvoir recevoir les personnes. On peut donner de l'information sur qu'est-ce que c'est la violence, c'est quoi la différence avec un conflit. Des fois, on ne sait plus trop. Donc nous, on va vous réexpliquer. Et puis, on va refaire un petit peu le tour de ce qu'on peut imaginer pour vous. Le but, ce n'est pas du tout de vous faire du mal ou de vous critiquer ou de vous juger. C'est vraiment de comprendre ce que c'est que la violence et comment on peut faire pour s'en sortir. Parce que la violence, elle fait autant de mal à la victime, bien sûr, à l'auteur, à la personne qui commet des violences, elle n'est pas bien avec elle-même, mais également aux enfants. Et notamment si vous commettez des violences et que vous avez des enfants qui vivent chez vous, qui voient cette violence, vous les exposez à devenir eux-mêmes de futures victimes ou de futurs auteurs. Donc vraiment, c'est très très important de dire stop à cette spirale infernale et de venir chercher de l'aide, on vous accueillera à bras ouverts.
J'ai remarqué qu'il y a une liste avec évolution des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi ça sert ?
Alors on a fait effectivement une petite frise sous forme d'un escargot qui présente l'évolution des droits des femmes. Alors elle part à peu près de 1700, alors pas 89 mais 91, avec la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'on a un petit peu oublié dans l'histoire. Mais puis après, avec toutes les grandes dates de l'évolution du droit des femmes. Par exemple, le droit à pouvoir travailler sans avoir l'autorisation du mari, le droit à pouvoir poursuivre des études, le droit à pouvoir disposer de son salaire, à pouvoir bénéficier, bien sûr, d'une interruption volontaire de grossesse, à pouvoir avoir une contraception, etc. Cette frise, on l'utilise au quotidien, on l'a affichée dans nos locaux, parce qu'elle nous rappelle le long chemin qui a déjà été parcouru et qui est absolument fabuleux pour les droits des femmes. Ça a été aussi un grand combat. Il y avait des choses qui coulaient de source pour les hommes et ben pour les femmes, il a fallu les obtenir en se battant. Ça nous permet de nous rappeler aussi que, eh bien, il y a d'autres femmes dans d'autres pays qui malheureusement n'ont pas tous ces droits-là. Et on pense fortement à elles et on espère qu'elles puissent les acquérir. Et puis ça nous laisse aussi à penser à tout le travail qu'on va avoir à faire parce qu'il y a des droits qui sont posés dans la loi. Par exemple, l'égalité de salaire. Un homme et une femme doivent avoir le même salaire s'ils occupent un poste équivalent. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça dans la réalité. Il y a souvent une frontière entre ce que dit le droit et puis ce qui se vit dans la réalité. Je pense aussi aux IVG, interruption volontaire de grossesse, ou à la contraception. On a le droit, mais encore faut-il pouvoir aller le chercher, pouvoir le prendre, pas avoir quelqu'un qui vous en empêche, etc. Donc tout ça, ça pose la question, et c'est ce qu'on vit au quotidien, de comment le droit il s'applique dans le quotidien. Donc c'est important de se rappeler que c'est jamais acquis un droit et qu'il va falloir se battre au quotidien pour les préserver et pour encore en gagner quelques-uns.
Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, choisir quelques dates exactement que vous aimez le plus, que
alors,
c'est très, très marqué, marqué que c'était énormément important pour des femmes, plus important, je peux dire. S'il y a la date comme ça.
Alors par exemple, moi j'aime beaucoup reprendre 1804. En 1804, c'est Napoléon qui est au pouvoir et il crée le Code civil. C'est la référence qu'on a pour le droit du quotidien en France, tout le droit de la famille. Et à l'époque, Napoléon, il a dit que l'homme doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari. Et donc là, on voyait bien qu'on avait un droit qui a été créé de manière très dissymétrique, très inégalitaire entre l'homme et la femme. Et en parallèle, bah, sur notre petite frise, on retrouve en 1938, donc là c'est le Front populaire, la suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée. Avant, quand on est une femme mariée, eh ben, on a le droit de rien faire. On ne peut pas signer un contrat, on ne peut rien décider toute seule. Eh bien, on supprime ça en 1938. Et puis, on peut voir également en 1970 l'arrivée de l'autorité parentale qui va remplacer la puissance paternelle, où on va avoir les deux parents qui vont décider de l'avenir de leurs enfants et non pas seulement un seul parent qui était auparavant le père.
Pour rappeler à notre auditeur comment ils peuvent vous contacter s'ils veulent venir chez vous, soit le téléphone ou mail ou adresse, si vous pouvez répéter votre contact.
Alors, on a des locaux, notre siège, qui sont situés 9A rue Schlumberger à Mulhouse, donc juste à côté de la place Franklin. Et sinon, on intervient sur tout le département dans différentes permanences. Le plus simple, c'est de nous téléphoner au 03 89 60 45 43 et vous pouvez également nous envoyer un mail à l'adresse contact info@cidff68.fr.
Merci beaucoup.
Thank you. Alors en fait, on est une organisation syndicale, la CGT, la Confédération Générale du Travail, et on est ici parce qu'on a un collectif qui s'appelle le collectif Femmes Mixité, où on veut défendre les droits des femmes sur leur lieu de travail, l'entreprise, l'administration, les associations, etc. Alors c'est assez multiforme. Il y a d'abord la question de l'égalité professionnelle et salariale. Il y a des différences extrêmement importantes entre les hommes et les femmes au niveau du salaire. Souvent à diplôme égal ou à niveau de qualification égal, il y a des différences qui sont extrêmement importantes. Et ça se rejoint après au niveau de la retraite. Il y a 40% d'écart de retraite entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est révélateur en fait des discriminations qui existent au travail au quotidien. Les femmes sont discriminées parce qu'elles sont obligées de prendre des arrêts pour la maternité, parce qu'elles sont obligées de prendre des temps partiels, parce qu'il y a des inégalités au niveau du partage des tâches domestiques. Et il y a aussi tout ce que tu abordais par rapport à la question des violences sexistes et sexuelles. Elles sont victimes en fait régulièrement du machisme ambiant de la part de leurs employeurs au quotidien, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres d'une inégalité au travail entre des femmes et des hommes ?
Alors, sur la question du salaire, c'est 20% de différence de salaire en général, voire 25%. La plupart des femmes sont obligées de travailler... je crois qu'il y a environ 80% des femmes qui travaillent dans 17 métiers différents. En fait, il y a une prédominance des femmes dans un certain nombre de secteurs professionnels, secteurs du soin et du social. Et en fait, on voudrait qu'il y ait une mixité beaucoup plus grande dans les métiers pour qu'il y ait moins de stéréotypes de genre. Et pour la question d'un chiffre, c'est 40%. Et pour moi, c'est le plus important, le plus 40% d'écart au niveau de la retraite entre les hommes et les femmes. Encore un autre chiffre, il y a pour la question du temps partiel, par exemple, c'est 85% des femmes qui prennent les temps partiels. Et la plupart du temps, ce sont des temps partiels imposés.
Votre association, quelles actions concrètes vous faites pour se combattre entre toute cette inégalité ?
On est une organisation syndicale. Du coup, on est présent avec un certain nombre d'élus dans les administrations, les entreprises, etc. On essaie de négocier, par exemple, des accords d'égalité femmes-hommes dans les différentes branches professionnelles. On essaie de participer régulièrement à des manifestations et à des actions féministes pour montrer que les organisations syndicales prennent à cœur les inégalités hommes-femmes. Et on essaie de faire en sorte que les syndicats deviennent soient de plus en plus pris en compte par les femmes, parce qu'il y a encore une différence au niveau de la syndicalisation entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, par exemple, à la CGT, il y a 60% d'hommes et 40% de femmes. Il faudrait que les femmes soient plus impliquées dans l'action syndicale pour mieux défendre leurs intérêts et qu'on ait une mixité en fait dans les organisations syndicales.
Je vois que vous portez votre collègue de votre association porte des choses, je ne sais pas comment ça s'appelle, la petite veste de couleur violet. Est-ce que ça signifie quelque chose ou c'est par hasard ?
En général, la couleur de la CGT, c'est le rouge dans nos manifestations. Le violet, ce n'est pas par hasard. C'est le mélange du bleu et du rose. C'est pour en fait dénoncer les stéréotypes. Voilà, c'est un stéréotype parmi d'autres, les garçons portent du bleu, les filles portent du rose. Le violet, c'est une façon de symboliser qu'il faut péter ce stéréotype comme il faut péter tous les stéréotypes qui existent entre les femmes et les hommes.
J'aime bien cette couleur et j'aime bien cette signification de cette couleur.
Merci beaucoup. Est-ce que c'est une question un peu personnelle, parce que en tant qu'homme, pourquoi c'est important pour vous de s'engager à des questions d'égalité entre hommes et femmes ? Il y a beaucoup d'hommes qui ne s'intéressent pas à cette question. Pourquoi vous s'intéressez à...
Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui, quand on est un homme dans cette société, on est privilégié. Et quand on se bat pour l'action syndicale, on se bat contre les privilèges. Donc le but, c'est que tout le monde fasse sa part égale du travail dans une société, les hommes comme les femmes, que ce soit pour les tâches domestiques comme les tâches professionnelles d'ailleurs. Et en tant qu'homme, c'est vrai qu'il y a une dimension un peu spécifique. Moi, je n'ai pas le vécu des femmes. Je ne sais pas ce que c'est que de subir la discrimination au jour le jour. Donc le but, c'est d'apporter... une contribution en fait pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes de domination et de pouvoir essayer de les affronter, de les comprendre dans un premier temps, essayer d'y répondre. Et en fait, Les hommes ne s'en rendent pas forcément compte, mais ils sont aussi touchés par la société patriarcale. Ils ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils ont des privilèges symboliques, etc. Mais quand ils sont obligés de s'investir à 100% dans le travail, parce que c'est ce que la société leur demande, quand ils sont obligés d'avoir un certain nombre de valeurs, de conflictualité, des valeurs qui ont trait à la compétition, etc., et ben en fait, s'ils ne rentrent pas dans ce moule-là, ils vont se retrouver discriminés aussi, ils ne pourront pas s'occuper de leurs enfants, ils ne vont pas vivre en fait pleinement leur vie parce qu'ils vont devoir répondre aux injonctions patriarcales de la société. Donc le but, c'est d'essayer de faire en sorte que... C'est pas évident de convaincre ni les hommes ni les femmes, mais c'est vrai que c'est un travail encore plus difficile parce que les hommes vont essayer de s'accrocher à leurs privilèges. Et ça, c'est un combat sur des décennies.
Mais merci, c'est très bon que vous avez mentionné ça. Juste la dernière question, si nous sommes, comment dire, la public générale, comment des jeunes peuvent s'engager pour améliorer la légalité au niveau professionnel entre hommes et femmes dans le travail? Est-ce qu'il y a des façons comme la public générale peut participer, vous aider à votre action?
Alors malheureusement aujourd'hui le taux de syndicalisation il n'est pas assez important, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Et c'est vrai que dans un premier temps il faut que les gens se syndiquent, prennent en compte et se battent pour défendre leurs droits. Et ensuite dans un second temps, grâce à cette syndicalisation et grâce à un travail spécifique, je pense qu'il faut un travail vraiment spécifique de compréhension de ce qu'est le féminisme, de ce qu'est défendre les droits des femmes, de comprendre les inégalités qui sont vécues par les femmes et les discriminations en général, qu'on pourra sensibiliser un maximum de gens à ce combat. Quoi.
D'accord, merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci.
On est un groupe de paysannes en Alsace, de la Confédération Paysanne, et notre groupe s'appelle les Mains Terreuses. On se réunit une fois par mois pour discuter, se former, échanger, s'écouter. Voilà.
Moi, je m'appelle Alice, je suis vigneronne. Je travaille sur une petite surface et je suis aussi du coup à la Confédération Paysanne, le syndicat agricole. Voilà. Et aujourd'hui, on est là pour porter la parole des femmes dans le monde agricole et voir comment ont avancé leurs droits dans le monde agricole et comment ça peut encore évoluer, où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
Je vois la petite exposition, est-ce que je peux dire, avec des fleurs, avec des bouteilles de quelque chose, des bougies aussi. J'ai remarqué le livre qui s'appelle « Être écoféministe ». Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que écoféministe?
La question piège. Écoféministe, il y a plein d'écoféminismes différents, mais peut-être que ce qui rassemble tous les écoféminismes dans le monde, c'est que on peut pas dissocier l'exploitation des femmes de l'exploitation de la nature. Voilà, c'est un mouvement à la fois écologiste et féministe. Qui c'est pas des féministes écolos ou des écolos féministes, c'est vraiment le fait que les deux sont intrinsèquement liés et qu'en défendant les droits des femmes, on défend les droits de l'environnement, du vivant, sous toutes ses formes. Ouais.
Voilà.
Il y a l'égalité entre votre domaine de... Comment on s'appelle
Dans le monde agricole?
Oui.
Non. On a fait pas mal de panneaux, mais actuellement, on fait donc partie de la Confédération Paysanne, qui est un syndicat agricole qu'on peut dire féministe. On a pas mal lutté pour l'acquisition de nouveaux droits. Mais aujourd'hui, il y a encore de quoi faire pour être représenté et que nos travaux soient valorisés, notamment par rapport à la double journée productive et reproductive. Aujourd'hui, c'est pas vraiment égalitaire. Effectivement, toutes les tâches ménagères incombent en général, même sur la ferme, incombent en général aux femmes. C'est difficile de monter une exploitation seule en tant que femme aujourd'hui. C'est pas du tout égalitaire encore.
Est-ce que vous pouvez nous raconter c'est quoi la double journée? C'est quoi la chose? Double journée?
Productive, parce que dans notre métier de paysanne, on a des productions. donc moi de fleurs, de légumes, et Alice en viticulture, donc de vignes. Et on a cette journée-là de travail et la journée reproductive qui est de s'occuper de nos enfants. En l'occurrence, on est toutes les deux mamans, de s'occuper de notre foyer. Et pour ça, ce travail-là, il est invisibilisé. Donc si aujourd'hui, notre travail productif, il est reconnu, c'est-à-dire qu'on a un statut pour ça, c'est notre cas, Alice et moi, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de paysannes ou de travailleuses du milieu agricole. Donc nous, on a un statut, mais en revanche, notre travail de femme au foyer, comme toutes les autres femmes au foyer, il n'est pas valorisé.
J'ai vu que maintenant vous êtes en train d'emballer c'est alcool ou c'est sans alcool?
Oui, alors c'est pas mes produits, c'est une collègue à nous qui est pas là aujourd'hui, mais ça c'est un jus de pomme, les Kirschkindel, c'est une variété alsacienne de petites pommes acides, c'est les pommes de Noël, donc c'est un jus de pomme qui est très bon. Et le Storm là, c'est un pétillant naturel de pommes et de raisins, donc là il y a un petit peu d'alcool, il y a 10 degrés d'alcool, voilà.
C'est pas mal. Et je vois aussi il y a l'essence ou l'huile.
C'est un produit de la vigne aussi. En fait, c'est de l'huile de pépins de raisin. Donc une fois qu'on a fait le vin, après la presse, on récupère les pépins et ils sont pressés dans un pressoir spécial qui extrait l'huile comme une huile d'autres noix ou d'olives. Et ça s'utilise, c'est comestible, ça s'utilise en très petite quantité, juste en gouttes en fait, comme ça sur les plats ou même sur les desserts. Et c'est pour ça qu'ils sont dans des petites bouteilles comme ça, avec des pipettes.
Oui, c'est intéressant, merci beaucoup pour nous montrer. Maintenant, nous sommes chez la table où ils font la poésie participative. Et chacun peut venir écrire la poème qui va commencer par « Je ne fais pas quelque chose, je suis quelque chose ». C'est pour compléter la phrase « Je ne fais pas exception, je suis exception ». Et c'est l'idée principale. Pour l'instant, il y a deux poèmes. Je ne suis pas sûre qui est auteur, si c'est déjà c'est comme la modèle ou si quelqu'un a écrit ça. Le troisième poème, très court.
Je pense qu'on peut y aller, demander des gens c'est quoi ça faire.
Voilà. D'accord, on y va. J'ai vu qu'il y a deux poèmes. C'est vous qui avez fait ce poème ou c'est déjà des participants?
Alors, c'est une copine à moi qui est Laura, qui fait partie. Nous sommes six filles qui avons organisé du coup cet événement. Et dans l'atelier créatif, Laura a rédigé ce beau poème à la machine. Et du coup, à vous de continuer la suite. Voilà.
Est-ce que vous voudriez réciter la poème ou vous n'avez pas envie maintenant?
Je peux inviter Princesse Patate avec sa douce voix pour vous la réciter si vous souhaitez.
Oui, ce sera très joli si vous seriez partante, parce que je peux réciter, mais je ne suis pas française, alors ça ne va pas sonner très, très joli. Alors bonjour.
Bonjour, je suis bénévole aujourd'hui, donc je suis venue prêter main forte à l'association Quack et surtout à Linda. Et prêter ma voix, comme je suis aussi une chanteuse-guitariste, pour la scène ouverte de tout à l'heure, Princesse Patate.
Ah, enchantée. Alors, est-ce que vous pouvez nous réciter votre poème préféré?
Alors, donc on a des poèmes, ce n'est pas moi qui les ai écrits. Donc, c'est des exemples pour inciter les gens à se défouler, à écrire les leurs. Donc, je vais vous lire celui-ci, donc le 8 mars. Je ne fais pas de féminisme, je suis femme, je suis homme. Je ne fais pas de chamanisme, je suis chamane. Je ne fais pas de sorcellerie, je suis sorcière. Je ne fais pas de politique, je suis politique. Je ne fais pas de communisme, je suis de bien commun. Je ne fais pas de socialisme, je suis la société. Je ne fais pas de populisme, je suis le peuple. Je ne fais pas de médecine, je suis la guérison. Je n'ai pas de pouvoir, je suis la puissance. Je ne fais pas de naturisme, je suis la nature. Je ne suis pas triste, je suis la souffrance. Je ne suis pas dépressive, je suis la dépression. Je ne suis pas violente, je suis la colère.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous avons bien réussi d'interroger presque toutes les associations qui sont venues pour célébrer la journée des droits des femmes là-bas. Ah oui, c'était très sympa. J'aimais beaucoup cette journée. J'ai appris plein d'informations intéressantes. Et je pense que pour vous, c'est aussi un peu intéressant. Elena, comment tu as profité de cette journée?
J'aime bien cet événement parce que on a raconté beaucoup de gens intéressants, mais quand même ça sera mieux que tout l'événement serait commencé à 1h. On attend toujours de quelque chose.
Mais maintenant on attend pour la manifestation. On va faire la marche autour de ville. Nous sommes à Scar de la Bourse. Alors, ça commence ici dans quelques instants. Tu es un peu retardé aujourd'hui. Mais il y a déjà plein de gens avec des drapeaux rouges, drapeaux verts, violets. Nous ne savons pas encore qu'est-ce que ça signifie, ce drapeau. Mais ça semble que la participation sera très grande. Avant que la manif va commencer, profitez de petites chansons.
Until my people free, we don't wanna chat until We don't wanna chant until my people free. And we are gonna chant until my people free.
Je vous invite à vous rapprocher si vous le désirez.
Alors, ça semble que la manif commence.
Le collectif féministe du 68, Quack, etc., aimerait vous présenter le collectif Les Mains Terreuses. Qui nous viennent de toutes
les villes. Il y a plein de monde, je ne suis pas bonne à dire si ce sont des dizaines de gens, je ne sais pas combien.
Bonjour.
Je ne suis pas bonne à faire des estimations. Mais il y a plein de monde, plein d'âges, même des enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup, pas seulement des femmes, il y a beaucoup de mecs aussi. Il y a des gens jeunes, des gens vieux, il y a vraiment tout le monde, toute la représentation.
La vie, la femme, la liberté, la vie, la femme, la liberté.
Mon choix, ma vie, mes droits. Mon corps, mon choix, ma vie, mes droits. Merci, bravo. Wouh ! On va commencer notre marche.
Alors, c'était pour donner ambiance. Et maintenant, on va.
On est là pour manifester.
On y va pour la marche. Vous êtes avec Radio WNE. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe maintenant, nous sommes à la marche avec Radio WN. On suivra la marche qui a commencé à Scar de la Bourse. Elle va autour Mulhouse. Elle va finir également à Scar de la Bourse. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre association?
Didif Mulhouse.
Quel est l'objectif? C'est pour les droits des femmes ou c'est au général pour...
En général, droits des femmes, droits des jeunes, associer tous les jeunes.
Et pourquoi vous êtes venue ici aujourd'hui?
Pour le droit des femmes et égalité des droits des femmes.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter votre association pour Radio WNE, si vous êtes d'accord? Bonjour.
Bonjour. Je fais partie de l'association UFAF, Union des femmes à Lévis de France. Donc là, on est là pour le 8 mars, pour avoir tous les droits. On veut que ce soit un jour férié, donc on essaie de faire notre possible, comme tous les ans, on verra bien. Merci.
Vous aimez bien maintenant la manifestation? Vous êtes contente avec le nombre de gens qui ont participé?
Bien sûr. On attend beaucoup plus de monde, mais bon, on fait quand même avec. C'est gentil qu'elles sont là, elles nous soutiennent. Et on a même nos hommes qui sont avec nous pour nous soutenir.
Et votre association, c'est dédiée uniquement aux femmes ou vous faites aussi d'autres événements?
Aujourd'hui, c'est pour les femmes. Donc, c'est le 8 mars.
En général?
En général, mais nous, on a nos hommes qui viennent, qui nous soutiennent aussi. Donc, ils sont là en renfort.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors voilà, c'était Union des femmes à Lévis en France. Une des participantes de manifestation pour les droits des femmes aujourd'hui à Mulhouse. J'ai trouvé le bon client de Radio WN, notre collègue Nino de Radio Kvitch. Alors, comment ça te plaît cette journée,
oui.
Cette manifestation?
Franchement, c'est une journée qui me tient à cœur. Je suis contente qu'on marche toutes et tous ensemble dans Mulhouse ce soir. J'aime bien les manifestations un peu nocturnes comme ça. Et comme on est le 8 mars, la nuit tombe encore tôt. Donc j'aime bien, ça crée une bonne impulsion et de l'espoir.
Merci beaucoup pour ton avis. J'ai vu d'autres bonnes clientes. Jeanne de Radio Kvitch aussi. Alors, comment tu aimes aujourd'hui la manifestation et qu'est-ce que tu as fait pendant aujourd'hui? Parce que tu as fait aussi ton projet dans la journée des femmes.
Alors, je suis un peu déçue parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis déjà venue le 8 mars plusieurs fois à Mulhouse.
et je trouve vraiment que là c'est léger léger, donc je suis un peu déçue pour ça. Après j'ai fait de la radio comme toi. On a rencontré des personnes vraiment très investies et tout, c'était bien.
Qu'est-ce qui était le plus intéressant pour toi comme la personne ou l'association aujourd'hui ici ?
Je trouve les filles de la Confédération Paysanne, les agricultrices, vraiment une démarche intéressante de parler de leur métier, de considérer que c'est des femmes qui ont des enfants aussi, qui ont une famille, qui ont des projets associatifs à côté. Donc il y a le domaine du travail, il y a tout le reste aussi. Je trouve ça bien qu'elles arrivent à concilier tout ça. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Il y a toujours beaucoup de paroles et puis on ne sait pas trop ce que ça va donner derrière, quoi.
Ah ouais, c'est ça, c'est le problème.
Comme ça, c'est plus symbolique qu'autre chose, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors voilà, c'était la démonstration, la marche, manifestation dédiée aux journées des droits des femmes. J'espère que vous avez bien profité de ce journée, que nous aimerions aussi vous le montrer vraiment comment ça s'est déroulé. Il y avait plein de trucs intéressants. J'ai appris beaucoup de choses intéressantes, j'espère que vous aussi. Je me rends à la maison. À bientôt.